L'erreur fondamentale de Thanos.
Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister.
L'humanité est un virus. Un cancer. Une anomalie. C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on répète. C'est ce que vous croyez.
C'est joli, n'est-ce pas? Parfaitement équilibré. Comme toute chose devrait l'être.
Titan était comme bien des planètes. Tellement de bouches à nourrir et si peu de ressources.
L'idée implantée dans nos têtes.
Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution.
Un génocide.
Mais aléatoire, impartial et équitable entre les pauvres et les riches. Et ce que j'avais pas dit, c'est finalement produit.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce récit qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, que l'homme est un virus, que nous sommes trop nombreux sur cette terre et que la nature se portera mieux sans nous. Ce récit que l'humanité est un virus est repris par des figures de la Silicon Valley. Musk, Thiel, Altman, Bezos, Zuckerberg, pour ne citer qu'eux, eh bien chacun à sa manière suggère que l'humanité actuelle est défectueuse, qu'il faut repartir de zéro grâce à la technologie, passer au transhumanisme.
Et aujourd'hui nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique.
Devenir immortel, conquérir les planètes. Bref, ils font courir l'idée que l'humain détruit son environnement et que c'est ancré dans sa nature.
We're just too dumb.
Right. If you were purely altruistic, if you only cared about other people, you don't survive.
Et si c'était faux? Si ce n'était pas l'humanité, le virus, mais bel et bien autre chose. Quelque chose qu'on porte en nous et qui parle à travers nous sans qu'on s'en rende réellement compte. Et donc, si vous êtes partisan de ce récit, que l'humanité est un cancer, personne ne peut vous en vouloir.
Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste.
On a baigné dedans. Et ça, c'est ce que j'appelle l'erreur fondamentale de Thanos. Et je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mais d'abord, je dois articuler ma pensée et je vais le faire autour d'un rapport qui est sorti et qui est tout simplement incroyable. Un rapport dont personne n'a parlé alors qu'il décrit le mieux le réel que n'importe quelle chaîne de TV, média mainstream ou politicien qu'on a l'habitude de voir.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
J'espère que t'es prêt, ça commence maintenant. Abonne-toi et bienvenue sur Limite. Alors si cette vidéo est possible et l'ensemble de la chaîne, eh bien c'est intégralement grâce à toi ou à vous, puisque vous êtes quand même nombreux à nous regarder. Merci du fond du cœur à ceux qui ont rejoint l'Odyssée du Vivant. On est bientôt à 80% de l'objectif. Le but de cette chaîne, que j'espère d'utilité publique, est d'essayer d'apporter plus de clarté sur la compréhension du monde et de donner la voix à ceux qui ne sont pas suffisamment écoutés, à savoir les chercheurs et les scientifiques, pour pouvoir faire ensemble de construire le meilleur des mondes possible pour demain.
Et dans cette vidéo, je vais également vous partager des moments que nous avons eus avec Kate Raworth, qui est à la base de l'étude dont je vais vous parler, et Olivier De Schutter, qui a été rapporteur pour les Nations Unies.
C'est sans doute l'une des études les plus importantes de l'année, et peut-être même du début de ce siècle, parce qu'elle raconte absolument tout, et qu'elle nous offre une vue d'ensemble sur l'état de notre monde avec deux analyses qui sont les plus importantes. La première, c'est votre vie, et la seconde, c'est la vie de la planète. Après A Good Life for All Within Planetary Boundaries, qui est sorti en 2018, Kate Raworth et Andrew Fanning ont publié la suite et c'est paru le 2 octobre dans Nature et comme je vous l'ai dit, ça a fait silence radio. Ce qui est magistral avec cette étude qui permet fondamentalement de parfaitement comprendre le monde dans lequel on évolue, que ce soit d'un point de vue environnemental, social et économique et même géopolitique, eh bien c'est qu'il tient en seulement 10 pages. Oui. 10 pages que beaucoup préfèrent bien sûr glisser au fond d'un tiroir, ni vu ni connu, et continuer à faire la fête comme si de rien n'était. Le cadre du donut. Alors ça a été proposé par Kate Raworth en 2012, elle travaillait à ce moment-là chez Oxfam, et le donut, eh bien, c'est ça. C'est une boussole. On mesure, grâce au donut, la santé sociale et écologique d'un pays, d'une ville, d'une organisation, en fait, du monde entier.
Yeah. I'm going to start with this question. What is the shape of progress? Right. The economics I learned at university in the 1990s, this was the shape of progress. Never-ending growth, right?
It growth.
Grows up, 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 up. It goes up through the ceiling.
Yeah.
And it's measured in money. This shape of growth, there's nothing in nature that succeeds by growing like this. Plants don't do this. Humans don't do this. This is nature's growth curve, right? Things grow and then they grow up and they thrive. Mm-hmm. So we need to move away from this false metaphor of endless growth. So that was what really motivated me. How do we redraw, redescribe the shape of progress? So for this...
Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis un grand fan du jeu Tetris. Alors, j'imagine que tout le monde le connaît, tout le monde y a déjà joué, vous connaissez le principe. En bas, il faut empiler les bonnes pièces. Imaginez en comparaison, on installe les soins, le logement, l'énergie, l'éducation, la sécurité, l'égalité, la participation politique, la liberté, bref, la démocratie. C'est le plancher social qui est important pour les humains. Mais au fur et à mesure, le jeu s'accélère et en haut, vous commencez à empiler, eh ben, imaginez d'autres blocs. Le climat, l'eau, l'azote, les sols, la biodiversité. Et à un moment donné, vous constatez que ça s'empile beaucoup trop vite, et si vous gérez ça très très mal, c'est game over. Le but du donut, c'est de jouer entre les deux, assez pour une vie digne.
Think of humanity's use of Earth resources radiating out from the middle of this, right, going all the way out. So it means this hole in the middle,
yeah.
This is a place where people are falling short on the essentials of life. This is a bad place. Mm. People do not have the resources they need for healthcare, education, food, water, housing, transport. We want to leave nobody in this hole. And the dimensions of this hole, I crowdsourced them from the world's governments. You know, they created the Sustainable Development Goals. I took all the social priorities from those: food, water, energy, housing, income, voice, equity, gender equality,
education.
Yeah, all here. So leave nobody in the hole, falling short on the essentials of life. We all need to use enough resources to get over this inner ring, I call it the social foundation.
Et à la fois, faire attention à ne pas casser la partie en pétant les limites écologiques.
But, and this is a very big 21st century but, we start to use so much of Earth's resources, with fossil fuels, materials, construction, food, gadgets. This is a good space where we want to live in the green ring, but here, this is the outer boundaries, this is the planetary boundaries on the outside, and we don't want to overshoot outside here. So we don't want to leave anybody here in the hole, but we also don't want to be out here, because here we are putting so much pressure on this planet, this unique, delicately balanced living planet, that we are going to cause ecological breakdown. We're pushing beyond the capacity that our planet has. Too many carbon emissions in the atmosphere, acidifying the oceans, we create a hole in the ozone layer. So we don't want to leave anybody here, but we don't want to end up out here. And that means we need to be in this green donut-shaped space itself. This is where we meet the needs of all people within the means of the living planet.
Et c'est ce cercle qu'on va appeler le plancher. C'est celui-là que vous voyez, hop, j'entends bien. Et il est très important. Gardez bien ce plancher en tête, parce que plus loin, on verra pourquoi même dans les pays ultra riches, des centaines de millions de personnes passent encore au travers, et donc une classe moyenne qui s'érode et qui tombe dans la pauvreté. Oui, oui. Pour mesurer, Raworth et Fanning utilisent 35 indicateurs. 22 pour les 12 dimensions sociales, 13 pour 9 dimensions environnementales. Alors, je vais pas vous faire un topo général dans cette vidéo, je vais surtout essayer d'aller à l'essentiel, même si elle risque de durer un petit peu. En premier, vous avez donc les valeurs écologiques, c'est avec le pourcentage de dépassement par rapport à ce que la Terre est capable d'encaisser, ou si vous préférez renouveler pour ne pas s'effondrer. Et en deuxième point, les valeurs sociales. De 0 à 100% de la population qui vit de grosses galères. Et les résultats, bah, ils piquent, hein. Côté environnemental, 7 limites sur 9 ont été dépassées. Le dépassement passe de plus 75% en 2000 à plus 96% en 2022. Pour le traduire très simplement, on consomme dans le monde quasi deux fois ce que la Terre est capable de régénérer chaque année. Et donc, lorsqu'on parle de limites planétaires, eh ben, on parle de ce concept qui a été créé par cet homme, Johan Rockström, et son équipe de scientifiques, et on clair, on retire l'eau plus vite qu'elle ne se recharge, on ajoute des nutriments plus vite que les milieux ne les absorbent, surtout avec notre agriculture, hein, c'est des engrais pour faire pousser en toute saison, on piège plus d'énergie qu'on en laisse repartir vers l'espace avec les émissions de gaz à effet de serre, on dégrade les écosystèmes plus vite qu'ils ne se régénèrent, et ben c'est comme si on claquait chaque mois plus que l'argent de notre salaire. Alors côté social, il y a une amélioration globale. Oui, il faut quand même le dire quand c'est bien, la part de la population mondiale qui était en déprivation passe de 47% en 2000, donc c'est-à-dire la moitié de l'humanité qui vivait des galères, à 35% en 2022. Mais derrière ces progrès, il y a malgré tout encore 2 milliards d'êtres humains qui n'ont toujours pas la base pour une vie décente. Et pour certains essentiels, malheureusement, à savoir l'eau, la sécurité sociale, les emplois des jeunes, la lutte contre la corruption, il n'y a eu absolument aucune amélioration depuis 20 ans. L'extrême pauvreté, elle, a reculé depuis les années 2000, mais là, je mets un point d'honneur et je vous demande vraiment d'être vigilant.
Car depuis 2020,
il y a un truc qui sent mauvais.
Ce chiffre a augmenté parce que la crise du Covid-19 et puis maintenant la crise du pouvoir d'achat liée à l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires a conduit entre 75 et 95 millions de personnes à tomber dans ces extrêmes pauvretés en dessous de ce seuil, pourtant très bas, de 2,15 $ par jour et par personne.
En gros, les indicateurs sociaux montrent que la situation globale des humains s'est améliorée d'un 0,5% tous les ans depuis 2000. Alors ça paraît un peu positif, et ça l'est, oui bien sûr, mais c'est beaucoup trop lent.
On va juste prendre le temps de regarder ce graphe pendant 2 secondes. Vous pouvez constater que ce qui est en rose clair, ce sont les principaux indicateurs. Donc globalement, eh bien, on a pas mal amélioré les conditions humaines. Bon, on voit que l'insécurité alimentaire, malheureusement, elle est en train d'augmenter. Mais c'est quoi ce bordel de l'autre côté là ? Non, attendez, c'est une blague. Il y a une explosion des régime autocratique. Et là-dessus, je voudrais bien avoir votre ressenti en commentaire. Regardez l'état de la démocratie. Depuis 2006, c'est littéralement en train de chuter. Il se passe quelque chose. Bref, revenons à nos moutons.
Est-ce que vous connaissez ceci ? Ça, c'est les ODD, les objectifs de développement durable qui ont été lancés par l'ONU en 2015. En étant très sérieux, genre en mode, les gars, on vise la fin de la pauvreté et la fin de la faim, FIM. La santé, on va l'améliorer à fond. L'éducation, la réduction des inégalités pour tous. Eh bien, figurez-vous que pour atteindre les ODD d'ici 2050, il faudrait alors aller 10 fois plus vite et plus fort que le rythme actuel. Et maintenant, passons du côté de l'écologie. Et là, c'est pire. La dégradation, c'est-à-dire l'accentuation des limites planétaires dues à notre système économique et aux activités humaines, eh ben ça représente 4% par an. Donc pour revenir sous les limites avant 2050, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est pour l'habitabilité de la planète Terre, notre survie à vous et moi, eh bien il faudrait inverser la courbe et passer à plus 0,6% par an de régénération pendant 30 ans. Vous avez, je pense, constaté qu'on n'y est absolument pas du tout. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut passer d'une hausse de 3,1% par an actuellement à une baisse de 3,4% tous les ans. Oui, on va être très honnête, ça paraît injouable. Mais on va tous ensemble, dans cette vidéo, essayer de raisonner, de voir par où est-ce qu'on pourrait commencer. Je vous propose maintenant de découper le monde en 3 parties, 3 étages. Le bas, les 40% des pays les moins riches. Alors si vous me regardez par exemple depuis le Sénégal, dites-le-moi d'ailleurs en commentaire, hein, ou de la RDC, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de la Centrafrique, de Madagascar, les Comores, la Guinée, le Bénin, Togo, Haïti, Côte d'Ivoire, et ben donc vous êtes situé ici. Le milieu, les 40% intermédiaires, ça c'est si vous me regardez depuis Congo-Brazzaville, oui vous avez de la moula là-bas, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Gabon et l'île Maurice. Et enfin, le haut, les 20% les plus riches, ça c'est si vous regardez depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Canada, les États-Unis et Monaco. Voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous faites partie d'un de ces pays-là. Et le résultat, bah, en fait, il est sans appel. Plus on est riche et plus on dépasse les limites écologiques, c'est indéniable, c'est un fait acté. Avec les pays les plus pauvres, le dépassement, malgré tout, est de plus 1%. Le dépassement pour les pays intermédiaires est de plus 96%. Et maintenant, le dépassement pour les pays riches, celui dans lequel j'évolue moi-même, plus 273%. Ce qui signifie en traduction que 15% de la population mondiale, donc les 38 pays les plus riches, causent la moitié des problèmes. Et les plus pauvres, donc presque la moitié de l'humanité, est responsable que de 4% des dégâts de la planète.
Et il y en a certainement pas mal parmi vous, très affûtés, qui ont bien sûr capté que 40% de l'humanité foutait tout autant la merde. Eh bien, attendez seulement un instant parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises concernant ce truc-là.
Donc à l'échelle mondiale, une minorité littéralement en train
d'absolument tout péter.
et dépasse à elle seule le plafond écologique, en ayant certes amélioré au mieux ses conditions sociales, hein, l'emploi, l'égalité, etc. Mais c'est très loin d'être parfait et le reste du monde, malheureusement, est en énorme partie coincé sous ce plancher. Maintenant, peut-être que vous allez me demander s'il y a un pays qui arrive à tirer son épingle du jeu, qui respecte les limites écologiques et en même temps qui a réussi à bien développer une bonne vie pour tout le monde. Eh bien, il y en a un.
So the country that's closest is Costa Rica. And yeah, so they're not in there. They are closer than others to meeting people's needs, almost within the boundaries of the planet. And there are at least two policies that I can tell you of that they've put in place that make sense of this. So, so they have around like $22,000 per person per year, less than a third of Belgium, for example. So, which is again encouraging. You don't have to be the richest country in the world to say, oh, now we finally did it. What did they do? Really strong investments over many decades in health and education. Public health, public education, access for all. It brings people up out of that hole in the middle. Right? It just invest in public health and education. And, as you know, they have extraordinary forests. And if you look at a graph of Costa Rica's forest cover, it was going down, 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 down. They were logging it because it, you know, if you don't value the forest, you cut it, you can sell the timber. It was going down. In 1987, they made a regulation, we will stop cutting the forest. And they actually started to pay farmers, some farmers, to stop cutting the forest. You see the graph goes down, 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 down. 1987, and it starts coming back. And what they didn't realize, I've spoken to people from the government, they said, you know, when we made this regulation, we knew we had to protect the forest. What we didn't realize actually was it would make our country an ecological haven. It would make it ecologically famous. It becomes a place where people want to come visit and see nature.
Donc vous avez compris ce qui se passe. Plus un pays est pauvre, plus une grosse partie de sa population tombe sous le plancher social. Là où on devrait justement garantir une base, eh bien le filet de sécurité il est littéralement troué. Mais à quoi ça ressemble dans la vraie vie pour vous? Alors si vous me regardez du Sénégal, de la RDC, du Mali, du Niger, d'Haïti, bref les premiers pays que j'ai cités dans les 40% les plus pauvres, donc dans les étages du bas, eh ben dites-moi si je me trompe, mais normalement vous vivez encore des coupures d'électricité récurrentes, l'accès à l'eau potable est soit elle est lointaine, soit elle est incertaine, quand tu ouvres ton robinet il y a de la terre, il y a des trucs bizarres, les hôpitaux sont souvent saturés, sous-équipés, bah parfois tu peux même pas te soigner, la scolarisation elle est incomplète, notamment pour les filles, les emplois bah c'est tu travailles au black, hein, informel, instable. Tu fais 1000 jobs différents, tu t'es formé sur plein de métiers manuels, et bref, tu fais du hustling et tu cours beaucoup derrière l'argent en mode survie sans réellement avoir du temps pour toi. Peut-être que je me trompe. Cela dit, c'est quand même les pays où comme l'abondance n'y est absolument pas, il y a plus d'entraide et il y a plus de rapports amicaux et de connexions en famille. Les étages du milieu, si tu me regardes du Maroc, d'Algérie et Tunisie, il y a des progrès réels, notamment en matière d'électricité, d'école et de route, mais malheureusement, il y a encore des gros soucis en matière dans certaines zones d'eau, d'emploi et de logement. Et il y a un problème sur le rapport qui ressort très souvent, et bien c'est la corruption qui est plus élevée en moyenne. Et dans les étages du haut, bah forcément la base sociale est largement assurée, mais ces pays sont ceux qui dépassent le plus les limites écologiques. Le plancher est solide, même si très imparfait, et commence tout doucement à craquer, mais le plafond, lui, il est littéralement explosé. Bref, en te résumant ces 10 pages d'études, et bien là où les conditions humaines sont bonnes, ce sont des pays qui dépassent le plus les limites planétaires. Là où les conditions humaines sont mauvaises, ce sont des pays qui respectent le plus les limites planétaires, avec une faible empreinte, mais un manque d'accès aux besoins de base. Mais voilà, il y a une couille dans le potage, comme dirait l'autre. Notre économie mondialisée fonctionne par chaîne d'extraction. Les pays riches puisent et épuisent les ressources de leur propre territoire, mais ensuite sécurisent et s'approvisionnent en énergie, en matériaux, en ressources et en main-d'œuvre dans les pays les plus pauvres. Et donc le résultat, c'est qu'on déplace les dégâts écologiques au sud et on importe la valeur au nord.
At the moment, so some people say, no, we need this trade. We need Europe to be buying because this is what gives livelihoods to people in the global south. We depend upon it. But it's extractive of critical resources that once those countries have higher incomes, they will wish they hadn't exported it all. They needed it for their own basic housing and education and health and transport. So I think we need to move to patterns of much more south-south trade. So the global south becomes its own hub of resources and of resource and meeting the needs of its own people, right? That's what the economic demand should be, not servicing the global north, but meeting the needs of our own people to get everyone out of the donut's hole. And the global north needs to massively reduce its draw on new resources and take a look around. There are decades, centuries long of resources already here that have been extracted from all over the world.
Donc c'est comme si les pays riches braquaient leur confort de vie aux pays du sud qui ne peuvent pas bénéficier des ressources qui sont dans leurs terres. Et c'est pour ça que les pays du global sud sont quasiment tous pieds et mains liés aux entreprises du nord qui disposent des machines pour extraire les matières, qui disposent des bateaux et de la marine marchande pour et des avions même pour les transporter et disposent des hauts fourneaux et des usines de transformation et même des usines d'assemblage pour créer tous les produits, des lunettes, des smartphones, des voitures, des télés, la caméra qui est là en train de me filmer. Donc toute cette croissance produite par cette extraction est de plus en plus captée en haut, mais genre vachement haut. Et ce qui se passe, c'est que dans les pays riches, je vous avais dit qu'il y avait un trou dans le plancher, et bien on constate que puisque les milliardaires ont décuplé leur fortune ces 10 dernières années, avec des records incroyables en matière d'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, Panama Papers, etc., et bien que les classes moyennes s'érodent de plus en plus parce qu'elles ne bénéficient pas de la valeur produite par leur travail, et que la pauvreté est en train d'augmenter dans les pays riches.
Il y a tout un débat sur comment définir la pauvreté, et de plus en plus la pauvreté, on la définit de manière relative plutôt qu'absolue. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est pas des personnes qui sont en dessous d'un niveau de revenu et qui risquent la famine et ne pas avoir un toit sur leur tête. La pauvreté, c'est l'exclusion qui résulte du fait que d'autres dans la même société sont plus riches et qu'on n'arrive pas, sans honte, à affronter leur regard. On n'arrive pas à équiper l'enfant pour qu'elle aille à l'école. On n'arrive pas à payer les classes vertes. On n'arrive pas,
à suivre le train.
On n'arrive pas à suivre le niveau général de progrès dans la société parce que les écarts de revenus sont trop importants.
Et donc, à ce niveau-ci du récit, vous devez peut-être vous dire qu'on soit riche ou pauvre, l'humanité reste bien le virus. Certains détruisant l'environnement avec plus d'intensité que d'autres. Eh bien, nous y voilà. Ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est d'un logiciel, d'une croyance, d'un truc qu'on nous a mis dans la tête aussi bien que DiCaprio dans Inception, quelque chose qu'on a appris à l'école quand vous étiez sur les bancs, qu'on vous mettait en compétition les uns avec les autres, avec des points qui nous poussaient à nous comparer et à la performance perpétuelle et qui a continué sur notre lieu de travail par la suite. Nous avons toutes et tous été optimisés à produire plus, plus rapidement et efficacement. Et nous avons construit des machines pouvant nous amener à aller plus loin et des outils qui accélèrent encore plus le processus pour aller plus vite et produire encore plus. Je parle bien sûr de l'IA. Et cette idée-là, elle est surtout maintenue par une petite proportion de l'humanité qui, en utilisant la pub, les tendances romancées par la culture, la télévision, et ça y est, on est tous endoctrinés par une vision commune de la destruction de mère nature pour produire plus et le justifier en disant que de toute façon, l'humain est comme ça, que l'humain est un cancer, que l'humain est un virus. C'est fou, non ? Eh bien, c'est là qu'intervient l'erreur fondamentale de Thanos. Thanos est un des méchants les plus mythiques de l'histoire du cinéma avec Dark Vador. Dans Avengers Infinity War, Thanos est présenté comme un écologiste traumatisé. Son monde s'est effondré par surexploitation. Cela lui a laissé des traces indélébiles, une colère, une tristesse profonde. Et sa solution ? Anéantir la moitié des êtres sensibles, intelligents, ayant fondé des civilisations, et au hasard sans distinction, pour soulager la pression sur les ressources et l'environnement.
Avec les 6 pierres, il me suffirait d'un claquement de doigts pour qu'ils cessent tous d'exister. J'y vois une sorte de bienveillance.
Anéantir une partie des espèces vivantes intelligentes pour que l'autre puisse prospérer.
Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage.
Le problème, c'est que Thanos confond espèces et systèmes. Il ne distingue rien, pauvre et riche, jeune et vieux, détenteur du capital ou pas. Il coupe la vie au hasard et laisse intactes les structures qui détruisent. Les rentes, les marchés financiers hyper-extractifs, la dette, la capture politique, la colonisation et les machines d'extraction. En fait, c'est comme s'il faisait disparaître un Sénégalais au profit de toute la famille de Bernard Arnault. Mais admettons que cela se passe dans la réalité. Eh bien, le résultat serait tout simplement un effet rebond. Avec donc deux fois plus de ressources disponibles par tête, les mêmes mécanismes d'extraction accélèrent. Tu gagnes quelques générations à peine, 30 à 50 ans, et tu recrées le dépassement des limites planétaires et de la pression sur les ressources plus tard. Ce que montrent les chiffres, c'est l'inverse du fantasme misanthrope. Ce ne sont pas les humains en bloc. Ce sont certains modes de vie et d'organisation qui fonctionnent sur des croyances, des schémas de pensée, des idées, notamment que c'est l'humain que ce serait inscrit dans notre ADN et que nous ne pouvons pas gérer notre maison commune autrement. Ce qui bien sûr est faux.
Et ça, ça mériterait vraiment plusieurs épisodes sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En plus, j'ai la chance d'avoir été invité par des caciques dans la forêt amazonienne par rapport à des projets sur le cycle de l'eau, la reforestation et l'autonomie alimentaire. Et sur l'aspect de comment concevoir l'organisation sociale, je me suis ramassé une claque.
Et donc la vraie solution n'est pas de supprimer les gens comme le suggère Thanos. Et comme nous l'avons d'ailleurs aussi très souvent en commentaire de nos vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo sur ce sujet. Ce qu'on doit faire, c'est désinstaller l'idée qui pilote la destruction. Le logiciel qui pense qu'on est heureux à travers la possession matérielle, qu'il faut toujours en faire plus et produire plus, que tout ce qui compte, c'est la croissance à tout prix. Et d'installer une nouvelle croyance collective qui priorise le plancher social et le plafond écologique. Bref, le donut. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai mis le donut en couverture de livre « Prendre le contrôle hein. ». C'est mon livre que j'ai sorti très sympathiquement. C'est disponible en description, allez le checker. C'est parce que c'est une véritable bonne boussole, en fait. Et je voudrais rajouter un petit mot sur les réalisateurs et sur l'univers Marvel et même Hollywood en général. Les frères Rousseau, c'était très intéressant d'avoir installé comme motivation dans le grand méchant mythique qu'est Thanos une sensibilité liée à l'environnement. Mais il est le super méchant. Et ça vous explique comment Hollywood conçoit les personnes qui ont un affect avec l'écologie. Ils sont considérés comme des ennemis. Les politiques centrées sur la croissance infinie ont échoué à nous amener dans l'espace sûr et juste du donut. C'était pourtant leur promesse. Ray Wharf et Fanning appellent à un renouveau profond, sortir de la mystique du PIB, repenser la prospérité pour découpler le bien-être humain du saccage écologique. Parce que l'idée n'est pas de se priver de l'essentiel, c'est de changer de moteur en roulant, amincir ce qui déchire les limites. Les jets privés, les SUV lourds, la fast fashion devenue la flash fashion aujourd'hui avec l'IA, la pub hyper incitative, l'obsolescence programmée, la viande ultra intensive, les voyages d'affaires évitables et renforcer ce qui aujourd'hui élève le plancher social. Les soins, la rénovation, les transports sobres, l'agroécologie, l'éducation, la culture, le vivre ensemble. Moins de superflu vorace, plus d'essentiel vital. Car on ne colle pas un patch sur un système cassé. On installe un nouveau programme. Et le donut est ce nouveau programme. Bien-être humain avec santé planétaire qui vont de pair. C'est la seule façon pour l'humanité de survivre. Notre pire ennemi, ce n'est pas nous. L'humanité n'est pas le virus. C'est ce qu'on s'est mis à croire, que la croissance suffit à tout résoudre. Preuve aujourd'hui, notamment avec ce rapport, que non. On peut changer de croyance, donc changer d'organisation, changer de système économique. L'engagement politique n'est pas uniforme, il n'est pas une fin en soi, il est modulable.
Et puis surtout, et c'est ça la question que moi je soumets aujourd'hui aux Nations Unies, est-ce que l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est suffisamment inclusive? Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que l'économie crée des inégalités, crée de l'exclusion, on cherche à compenser ça par les mécanismes de l'État-providence, mais est-ce qu'on ne devrait pas travailler à une économie moins violente, plus inclusive, qui donne à chacun, à chacune, sa chance, au lieu de compenser, en quelque sorte, après coup, les exclusions que le marché crée?
Il peut être pensé comme un quotidien, des villes basées sur le donut, des budgets publics basés sur le donut, une association, des entreprises basées sur la théorie du donut. On peut recoder la matrice. Et donc, et je pense que vous voulez bien sûr me l'entendre dire, oulala, vais-je le dire, roulement de tambour, ah, cela passera nécessairement, oui, mesdames et messieurs, par une sortie organisée du système capitaliste. Mais si vous me demandez si je pense qu'on peut en sortir, eh ben je vous dirais que personnellement, j'émets de forts doutes qu'on puisse, nous, de notre vivant, même si je me bats pour ça, qu'on puisse en sortir. Cette machine est trop vorace. Elle est tellement cadenassée au niveau des structures sociales, des pensions, de la santé, de l'alimentation, de notre existence, de nos cerveaux même, qu'en sortir ne sera peut-être pas possible, ou peut-être que ce sera possible après qu'il se soit effondré sous son propre poids. On a usé de beaucoup d'intelligence pour le maintenir, le capitalisme, quand les ressources venaient à manquer et que ça devenait de plus en plus compliqué. On a créé la dette, qui en est un parfait exemple. Et d'ailleurs, cela mériterait même une vidéo sur la question, genre, je notais ça quelque part, je vais le faire. Mais nous sommes aussi capables d'intelligence pour proposer d'autres choses quand le capitalisme s'effondrera sous son propre poids, sur des limites planétaires dépassées, sur des ressources manquantes et sur un climat qui s'emballe et des humains forcément en colère, et c'est déjà le cas en ce moment, en colère d'avoir été floués et, je l'espère, au plus vite libérés de la croyance qu'elle est un virus. En définitive, et j'espère que cette vidéo a pu vous l'expliquer au mieux, le virus n'est pas l'humanité. C'est l'idée qui est le virus. Et l'idée peut se transformer en remède. Abonne-toi et puis commente, hein. J'ai vraiment envie de savoir ce que t'as pensé de cette vidéo, de ce qu'on a raconté. N'hésite pas à la partager à celles et ceux qui pensent encore que l'humain est un cancer, un virus, etc. C'est sûr qu'on a un nouveau programme à installer dans nos têtes, limitant modestement d'y contribuer. Je sais que beaucoup d'entre vous qui sont en train de nous regarder ont déjà changé de logiciel. Respect à vous, c'est pas évident, parce que vous nagez forcément à contre-courant. Et à ceux qui veulent nous rejoindre, j'ai l'impression qu'on parle comme dans une secte, c'est n'importe quoi. On est à votre disposition, c'est des sujets de vidéo que vous voulez qu'on traite, histoire de nous enrichir tous davantage. C'était Vince, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vraiment, abonne-toi, c'est important. Et à bientôt sur Limite. Ciao tout le monde.
Le PIB nous mène à l'extinction. Une croyance qui dévore le monde. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'espèce. C'est le logiciel.
Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage.
La croyance. On peut changer de croyance. Le virus n'est pas l'humain.